Jacques Chancel, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication du dictionnaire Amoureux de la télévision chez Plon, une collection dirigée par Jean-Claude Simoen que l'on a déjà reçu dans cette émission. Alors, dictionnaire Amoureux de la télévision, trois mots, il y en a deux qui vous conviennent parfaitement, c'est Amoureux de la télévision. Par contre, dictionnaire, ça doit être frustrant.
D'abord, c'est le dictionnaire amoureux, comme vous le dites. Ce n'est pas le dictionnaire de la télévision. Donc, la subjectivité est totale. Je n'ai pas à raconter vraiment toute la télévision, j'en serais bien incapable. Je raconte la télévision que j'ai véritablement bien connue. Donc, c'est complètement différent. Et le dictionnaire est une chance, est une facilité aussi, puisque pour le lecteur, s'il s'ennuie à la lettre A, il peut aller tout de suite à la lettre Z. Non, je veux dire que le dictionnaire permet d'affronter un peu tous les personnages et tous les sujets. Alors, dans le dictionnaire amoureux, dans celui-ci qui est de la télévision, il y a ceux qui ont fait la télévision, ceux qui la font, mais aussi les émissions. Et parfois, les émissions dépassent le personnage. Dans d'autres cas, c'est le personnage qui dépasse la propre émission.
J'ai quand même eu le sentiment que c'était un livre aussi sur l'amitié, sur les amis. C'est plutôt un livre des hommes et des femmes de télévision, un dictionnaire des hommes et des femmes télévision.
Oui, tout à fait. C'est des gens que j'ai pu rencontrer. Il y a des gens qui manquent. Ça n'est pas parce que je suis en querelle avec eux. C'est peut-être pire, c'est peut-être parce que je suis en indifférence. Mais choisir, c'est éliminer aussi. Donc, ceux qui manquent, il y en a certains. Je me suis reproché, mais j'aurais fait 1000 pages, je me suis reproché de ne pas les voir. Et même, je peux vous le dire en confidence, il y en a 2 ou 3, les papiers étaient faits que je n'ai plus retrouvés dans le livre. Alors, est-ce l'édition qui les a égarés? Est-ce moi, d'une manière tout à fait involontaire? Je n'en sais rien. Mais c'est l'amour, vraiment, de ces gens-là, l'admiration que j'ai souvent pour eux, parce qu'on ne peut pas aimer si on n'admire pas, et puis le bonheur qui m'a été donné de pouvoir traverser leur vie et leurs occupations. Vous le savez, lorsque vous avez la chance de pouvoir accueillir le Philharmonique de Berlin avec Karajan, c'est quand même une chance très exceptionnelle, surtout lorsque il vous fait le cadeau de certaines présences, comme Anne-Sophie Mutter, qui est l'une des plus grandes violonistes du siècle, et que j'ai reçue alors qu'elle n'avait que 12 ans, et qui aujourd'hui a encore fait une carrière tout à fait exceptionnelle. Karajan, c'était l'homme de tous les exploits. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Alexis Weissenberg, qui va très mal, hélas, aujourd'hui, qui est un immense pianiste, m'avait fait le cadeau de Yo-Yo Ma, le grand violoncelliste, qui avait également 11 ans, 12 ans. Et les sœurs Labec, c'était leur mère, mais elles avaient 10 ans. Moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir offrir à tous ces jeunes un tremplin. Un tremplin durable. Mais ça n'est pas pour faire bien de donner un tremplin à quelqu'un, parce qu'on peut le donner à quelqu'un qui n'a pas de talent. Nous, on était très exigeants sur le plan du talent. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire ça, donner ça à tout le monde.
Par contre, il y a quand même des artistes, des musiciennes, notamment, que vous n'avez pas pu recevoir. Martha Argerich, vous racontez pourquoi? Dans quelles circonstances vous n'avez pas pu la recevoir?
Non, Martha, pour moi, l'une des plus grandes pianistes du siècle. Et je dirais même de très loin. Moi, je me défends du plus grand. J'ai toujours l'un des plus grands, parce qu'on ne sait pas. D'abord, on ne connaît pas tout. Mais Martha Argerich, elle m'inquiétait par son peu de disponibilité à certains moments de sa vie. C'est-à-dire qu'elle avait un concert, puis elle annulait la veille. Moi, je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne pouvais vraiment pas le prendre. Moi, j'étais toujours en direct. Et j'ai eu de grands combats avec son copain Ivry Gitlis, l'autre violoniste sublime. Il me disait, mais reçois-la quand même. Je lui dis, mais si elle se désiste la veille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que toute l'émission tourne autour d'un invité. On répète autour de son invité. Il n'y a plus rien à faire. Et il me disait, fais-le quand même. Et je ne l'ai pas fait, et je crois qu'elle m'en a tenu rigueur à un certain moment, mais elle l'a compris. Hein. Elle a très bien compris pourquoi.
C'est vrai que quand on voit dans certaines des entrées concernant le Grand Échiquier, la manière dont il faut répéter, fixer des dates, fixer des calendriers longtemps à l'avance, Herbert von Karajan est un bel exemple avec le Berliner.
Oui, et puis Placido Domingo. D'ailleurs, Karajan était encore là parce que ça s'est passé à Vienne, en Autriche, lorsqu'ils enregistraient Turandot avec Katia Ricciarelli, Barbara Hendricks et Ruggero Raimondi. Et là, le soir, on dîne avec Placido. Il me dit, alors on le fait quand, ce Grand Échiquier? Je lui dis, prenons nos calendriers. Alors, il regarde le sien, il me dit, moi, je peux pas avant 2 ans. Et moi, je réponds, moi non plus. Moi, j'aurais pu me débrouiller avec un an. Hein. Pas moins d'un an. Et donc, on a fixé une date. Et nous sommes tenus à cette date. C'est ça qui est important. Vraiment, la parole de ces gens-là, qui est tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, parce qu'ils ont une vie particulière. Aujourd'hui, on en fait des tonnes dans les journaux, les couvertures sur les chanteurs. Vous savez, lorsqu'un chanteur, par exemple, sur scène, fait une erreur, il est applaudi aujourd'hui. Si Placido Domingo, Roger Raimondi, Jesse Norman font une erreur, ils sont vraiment sifflés. Donc, c'est un métier complètement différent. Moi, j'aimais ces gens qui avaient ce talent et cette obstination au travail. Donc j'ai eu le privilège. Je ne sais plus, on parlait d'autre chose à l'instant.
Non, on voit dans plusieurs entrées de votre dictionnaire combien les répétitions sont nécessaires, combien le travail préparatoire exige une discipline de répétition pour des personnes comme Herbert von Karajan.
Oui, et alors parfois ils me font des surprises. Karajan a été furieux à un moment parce qu'on avait Rostropovitch, Slava, et Slava était à Londres. Et au moment de l'enregistrement, il fallait répéter. C'était le jour même du direct, la dernière répétition. Donc, Karajan était exigeant jusqu'à véritablement l'honnêteté la plus pure. C'est-à-dire qu'il ne commençait une répétition qu'à l'heure qui avait été donnée. Et même en cours de morceau, si le temps était achevé, il arrêtait. Il disait « Silence, on s'arrête ». Et le père Rostropovitch n'était toujours pas là. Parce qu'il avait une bonne raison, mais Karajan n'avait que faire. Il avait eu un problème avec un avion, et il me dit, si Rostro n'est pas là pour répéter avec l'orchestre, il ne jouera pas. Et je te demande, Jacques, de ne pas lui laisser jouer le Bach en solo. Ça allait très loin. Et tout d'un coup, on a entendu des roulettes dans les couloirs des buts de Chaumont. Tous les musiciens étaient écroulés de rire parce qu'ils savaient qu'il arrivait. Et le père Rostropovitch est arrivé. Il a juste eu le temps d'ouvrir sa cage au violoncelle. Il a pris le violoncelle. On avait déjà mis la pique par terre, le trou. Et l'orchestre avait déjà commencé. Oh, mais il était terrible, Karajan. Et c'est là où on a écouté Anne-Sophie Mutter pour la première fois, qui jouait la Méditation de Thaïs de Massenet. Et tout d'un coup, je vois Rostropovitch qui pleurait. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, mais c'est trop beau. Mais c'est une gosse sublime. C'est du génie. Et c'est ça qui est merveilleux lorsqu'il y a des répétitions comme celle-là. Et c'est vrai, vous avez raison de parler des répétitions. Parce que je crois que si on enregistrait les répétitions, on aurait de très, très grandes émissions. On enregistre souvent, hein. Mais enfin, j'ai toujours considéré que c'est un peu malhonnête que de les diffuser après.
Ouais, on parlera du patrimoine et des images d'archives aussi ensuite. Mais j'aimerais qu'on revienne peut-être à un autre fil d'Ariane qui traverse ce livre-ci, mais aussi vos livres précédents, qui est cette sorte de bonheur de partager que vous avez et que vous donnez, dont vous irradiez, et puis la curiosité incessante de découvrir. On pourrait dire qu'il y a un temps pour vous qui pourrait exister, c'est le futur invitatif. On a toujours l'impression que vous dites, venez, vous allez avoir du plaisir à apprendre ce que je sais.
Moi, je n'ai qu'une seule qualité, je sais regarder, je sais écouter, et je me considère comme un passeur. C'est ça qui m'importe. Ça n'est pas tellement d'essayer d'être en première ligne, de montrer que je peux dépasser les tranchées, ça ne m'handicape pas du tout. Ce qui est pour moi la valeur suprême, c'est le relais que je peux tendre à certains. Et ça n'a pas de prix. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partager, j'ai besoin d'admirer. D'ailleurs, on ne peut pas aimer si on n'admire pas. Et j'ai besoin de dire, voilà ce que j'aime ou voilà ce que je n'aime pas. Et même, je me défends de la querelle ou de la polémique, parce qu'il y a plus que la colère et que la querelle, il y a l'indifférence. Choisir, c'est éliminer. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Comme par exemple, dans des grandes conversations, ce que j'ai beaucoup fait à Radioscopie, j'en ai fait 6826.
Hein. On va en parler si vous voulez.
Ouais. Ce qui me paraissait le plus important, c'était la question. Mais ce que je trouvais le plus raisonnable, c'était la réponse. Et lorsque je souhaitais vraiment égratigner, je passais par la courtoisie. Car la courtoisie est d'une violence extraordinaire à certains moments. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il faut regarder un visage lorsqu'il vous fait un compliment. Souvent, le compliment et le visage ne vont pas du tout ensemble. Et moi, c'est ce qui m'amusait. Et c'est ce que j'ai toujours su.
Si vous voulez, on parle un peu de... On embraye avec Radioscopie. Oui. Vous avez dit à propos du Grand Échiquier, c'était votre passion pour la musique qui pouvait... Oui. Votre curiosité pour la musique, tandis que Radioscopie, c'était la littérature. Est-ce que la radio se prête mieux à évoquer la littérature que la télévision?
Oui. D'ailleurs, lorsqu'on a fait de la radio ou de la télévision, il est rare d'ailleurs que les gens qui ont fait de la radio sachent passer à la télévision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent de la télévision qui font de la radio. Ça n'est plus du tout le même parcours. Moi, j'ai eu cette chance, ce privilège encore, de pouvoir assurer et la radio et la télévision. Et dans la radio, il y avait cette manière d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir, sur le plan littéraire, aller au fond des choses. Parce qu'on avait une heure qui n'était encombrée ni de musique, ni de publicité. Donc, si je parlais avec un écrivain, je l'ai fait avec tous, avec Jean-Paul Sartre, avec Monterland, je sais pas, tous y sont passés. Borges, auquel j'ai consacré quand même toute une semaine à Buenos Aires, Marguerite Yourcenar, toute une semaine à Mont-Désert, dans l'État du Maine, Albert Cohen, toute une semaine à Genève.
Ce sont des radioscopies qu'on réécoute encore.
Oui, qu'on réécoute. D'ailleurs, j'ai fait trois bouquins, l'un sur Borges, l'autre sur Cohen et l'autre sur Yourcenar. Sur Cohen, on a été obligé de pilonner parce que Madame Cohen nous a fait un vrai problème, parce qu'il est vrai, lorsque j'avais fait Radioscopie avec Albert, à un moment je revenais des États-Unis, j'avais rencontré Marguerite Yourcenar, j'avais vécu avec elle pendant 8 jours, et je lui parlais des mémoires d'Adrien, je lui parlais de tout ce qu'elle avait fait, je disais que c'était un grand écrivain. Il me dit non, ça n'est pas un grand écrivain. Moi je lui dis mais pourquoi? Elle est lesbienne. Ça fait un clash, ça met un clash énorme. Toute la presse le lendemain était pleine de ça. Mais il avait dit encore d'autres choses beaucoup plus graves.
C'était très cruel, hein,
oui,
ce qu'il avait dit.
Oui, lorsque j'ai fait le livre, je ne pouvais pas éviter ça. Et Madame Cohen a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. La bêtise d'Albert ne peut pas être mise en librairie. Ouais. Mais enfin...
Mais sur Albert Cohen, vous évoquez aussi dans l'entrée Frédéric Dard, c'est ça qui est passionnant, aussi dans le dictionnaire, vous évoquez que Frédéric Dard aidait...
Personne n'a jamais voulu le reconnaître, moi je peux le dire. Et Robert Hossein peut témoigner comme moi, parce que Robert Hossein était le grand copain de Frédéric. C'est fou ce qu'il a aidé. Elle ne veut pas en entendre parler, sa femme. Elle n'a jamais voulu en entendre parler. Mais moi je le dis, je n'accuse personne, mais je ne suis pas là pour juger. Je n'ai pas la compétence pour être juge. Mais en tout cas, ce que je dois faire, c'est témoigner. Et je témoigne de ça.
Le premier invité de Radioscopie, c'était Roger Vadim, mais j'aimerais qu'on parle du second, Romain Gary, qu'on reste dans la littérature. Romain Gary, alors là, vous l'avez interviewé, il vous a prédit, deux mois sera largement la durée de vie de...
Non, j'avais pris trois personnes que je connaissais bien pour démarrer mon aventure. Comme vous l'avez dit, le premier, c'était Roger Vadim. Le deuxième, c'était Romain Gary. Le troisième, c'était Georges Luc Borges. Et lorsque j'ai reçu Romain Gary, que je connaissais bien, il me dit, écoute, ça va être la promesse du soir plutôt que la promesse de l'aube. Tu ne tiendras pas 2 mois. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce qu'il n'y a pas plus de 50 personnes intéressantes en France. C'est terrible, ce jugement. D'ailleurs, il était malheureux. Il travaillait dans la sinistrose. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'est suicidé. Et qu'il a conduit sa compagne...
Jean Sieber,
Ralfer, enfin... J'aimais Romain Gary, parce que... On parlait de sa mère, il était passionné de tout ça. On parlait de son univers, c'est fou ce qu'il a été. Il a été consul, il a été grand résistant, il était compagnon de la Libération, il était russe, il était juif, il avait tout.
Vous dites d'ailleurs que son nom en russe veut dire incendié.
Oui, oui, mais c'est ça. Ouais. Et ce grand écrivain... m'a toujours passionné, donc on avait une relation tout à fait exceptionnelle. Mais lorsqu'il m'avait dit « tu ne tiendras pas plus de 2 mois », ça m'avait un tout petit peu ébranlé. Puis le lendemain, je lui ai dit « arrêtons les frais, quoi ». Et après, à la 10e année, quelque chose comme ça, je lui ai dit « tu as vu, hein, j'ai tenu un peu plus de 2 mois
». Et lui a dû se dédoubler, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ça, c'était autre chose.
Mais revenons à la première, maintenant, Roger Vadim. Est-ce que, replacez-vous à cette époque-là, avant de poser votre première question, la première phrase de Radioscopie, est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit, de ce à quoi vous pensiez?
Non, j'étais content d'abord de conduire un nouvel équipage qui était à 17h tous les jours sur France Inter, qui allait durer 1 heure. J'étais fier de ça, j'étais content. Dans le même temps, je me demandais, vais-je tenir la distance? Et j'ai pris Vadim parce que je le connaissais bien, parce que il était à ce moment-là un réalisateur qui avait été aventureux, qui avait pris des risques. Et de la même manière, Romain Gary venait tout de suite après lui. Donc j'étais dans une certaine ambiance. Et je n'ai jamais essayé de penser que ça pouvait durer ou ne pas durer. Je suis parti à l'aventure en me disant on va faire une heure tous les jours, mais je ne serai pas le plus intelligent. Les gens que je reçois sont forcément plus intelligents que moi. Il suffira que je pose les bonnes questions et petit à petit, je deviendrai un peu moins ignorant.
Qu'est-ce que c'est une bonne question ?
Alors, on ne sait pas, parce que je ne faisais pas de fiches, je ne faisais pas de papier. J'allais à l'instinct. En revanche, lorsque je recevais un écrivain, j'avais lu ses œuvres. Lorsque je recevais un cinéaste, j'avais vu ses films. Là où c'était le plus difficile, c'était avec les savants, avec Jean Rostand, Jacques Monod, Claude Lévi-Strauss. Quoique avec Claude Lévi-Strauss, après, il y avait une amitié qui s'était installée, j'ai fait beaucoup avec lui. Mais au début, je me disais, triste tropique, quoi, triste tropique de Radio France, presque. Mais c'était vraiment un combat à chaque fois. Pas un combat à armes inégales, d'ailleurs. Mais c'était pour moi, vais-je comprendre tout ce qu'ils me disent sur les savants ?
Ah oui. Je me souviens qu'à l'écoute des radioscopies, souvent venait la question, lorsque vous étiez en face de personnes qui n'étaient pas des écrivains, souvent vous leur disiez, n'êtes-vous pas tenté par la littérature ?
Oui, parce que la littérature a envahi ma vie. Moi, j'ai fait un recueil de poèmes, j'avais 17 ans, qui a été publié aux éditions Katina à Saïgon. Ensuite, j'ai fait deux romans avant 20 ans, Les Rebelles et L'Eurasienne. J'étais passionné de littérature. Je préfère ne pas les revoir, ne pas les relire. Ça, c'est autre chose. Après, j'étais correspondant de guerre, donc j'ai été pris par les événements. Je suis rentré à Radio France Asie tout de suite, tout jeune, tout gamin. Donc la radio a pris beaucoup de ma vie. Correspondant de guerre à Match, j'ai beaucoup, beaucoup de mes journées, de mes nuits et de mes années, même parce que je suis resté 8 ans dans le sud-est asiatique. Donc, c'est quand même un périmètre intéressant.
Qui est toujours présent dans tout ce que vous écrivez.
Je ne peux pas, parce que je suis né une première fois dans les Pyrénées. De 17 générations, je dois être bigourdant. Je suis né une deuxième fois dans le sud-est asiatique. Et je suis né une troisième fois, lorsqu'avec Marcel Julien, nous avons inventé Antenne 2. Voilà, donc, c'est une logique de ma vie. Ma vie n'était pas dessinée. Elle s'est dessinée petit à petit, elle s'est construite à la mesure de mes aventures, de mes audaces et peut-être de mes erreurs.
Ouais. Comment se passait la prise de contact avec votre invité dans le studio de France Inter?
Alors là, c'était très simple. Alors là, j'arrivais au moment où le générique partait. Je n'arrivais jamais avant l'émission. Parce que j'avais très peur que mon invité me dise « je n'aimerais pas qu'on parle de ça » ou bien, pire, « j'aimerais qu'on parle de ça ». Non, j'arrivais vierge et je voulais être vierge. Tout au long de l'émission, c'est-à-dire vierge, pour poser toutes les questions. C'est-à-dire que rien ne m'était interdit. Et on commençait comme ça et ça se terminait toujours à la seconde précise. Hein. Ah, ça j'y tenais, la seconde précise. Même s'il y avait un développé à ce moment-là, je m'arrangeais toujours 1 minute 30, 2 minutes avant pour poser la dernière question, interrompre, poser la dernière question pour qu'on me réponde d'une manière ferme, sûre et tranquille.
C'est très bien, c'est une excellente masterclass que vous venez de me donner.
Non, mais chacun travaille à sa manière. Il n'y a pas. On me dit souvent, quel conseil ? Moi, je donne toujours le conseil de ne pas en donner. Conseil. Ben ouais.
C'est une belle formule.
Ben oui, parce qu'autrement, chacun vit. Si vraiment il faut installer une école, ben à ce moment-là, on fait l'école du journalisme, on fait l'école de la radio, je ne sais pas si ça existe, on fait l'école de la télévision, je ne sais pas si ça existe. Les écoles, c'est très bien pour la formation de l'individu. Moi, mon drame, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout de Normal Sup. Bon, mais après, c'est la vie. Après, c'est le métier qui vous tient. La plupart de ceux qui sont aux altitudes les plus hautes aujourd'hui ne sont pas sortis des écoles. Hein. Des écoles, je parle de journalisme, tout ça. Hélas, ceux qui nous dirigent sont souvent sortis de Polytechnique ou de l'ENA. Mais ça, c'est autre chose. Mais on en a besoin, parce qu'on a besoin d'administration. Hein. Ouais, ouais. Oui, parce que nous sommes un peu...
Faut pas tomber dans le populisme.
Oui, voilà, c'est ça, un peu volage.
Alors justement, vous évoquez on a évoqué les écrivains, on a évoqué les scientifiques. Avec les politiques, comment se passe le rapport que vous avez? Je me souviens d'un grand échiquier avec Jacques Delors, qui était assez...
Ici,
à Bruxelles, absolument.
Oui, oui. Moi, je ne fais aucune différence entre un homme politique, un écrivain ou un musicien. D'ailleurs, je ne fais aucune différence entre une personne de la rue, que je vais rencontrer là tout à l'heure, et un grand personnage de l'État. Aucune différence. En plus, je considère que droite-gauche, même combat pour moi. Donc, la politique m'effraie, mais j'aime bien les hommes politiques, parce qu'ils sont le contraire de ce qu'ils paraissent. Regardez les débats, ils s'insultent, ils s'entregorgent, et dès qu'ils sont en coulisses après l'émission, ils s'embrassent. Non, lorsqu'on a vu ça, on est tout à fait rassuré pour le reste de l'éternité. Donc, aucune différence. Les politiques, je me suis beaucoup amusé avec eux. D'ailleurs, là, il y a plusieurs DVD qui sortent. Il y en a un qui est déjà sorti sur les artistes. Il y a un autre DVD de Radioscopie, à chaque fois 24, hein, 24 Radioscopie, mm-hmm. qui est sorti au moment de Cannes, sur le cinéma. Et là, sort le DVD sur les hommes politiques. Et il y a Mendès France, il y a tous ces gens-là. Et ça, c'est amusant. Mais je ne me réécoute jamais. Je ne me regarde jamais sur les grands échiquiers. Je laisse ça à la famille.
Vous avez eu le trac déjà. Vous vous souvenez d'avoir eu le trac une fois à l'idée de rencontrer une personnalité?
Non, et ça m'inquiète parce que vous savez ce que disait Sarah Bernard à une jeune comédienne. Vous verrez le trac, vous verrez de ce que vous aurez du talent.
Non,
mais c'est vrai parce que lorsqu'on a le trac, c'est qu'on veut s'inventer une mission particulière, où on veut peut-être installer sa propre statue. Tandis que si on fait comme quelqu'un de consciencieux et qui a envie d'apprendre, donc qu'en apprenant, il peut enseigner aux autres, là, c'est complètement différent. Mmh. Simplement, parfois, le démarrage de l'émission, surtout au Grand Échiquier, pouvait être une difficulté. Si, par exemple, en commençant l'émission, parce qu'on était toujours en direct, donc irrattrapable après, vous capotez sur un mot, eh bien, ça vous suit à peu près pendant 3-4 minutes, même plus, parfois. C'est le seul problème. Et on l'a tous eu, ça. Oui, même lorsqu'on dit bonsoir madame, il peut se passer quelque chose.
Mais non, c'est vrai. Alors j'aimerais qu'on aborde un dernier aspect qui est lié à Internet, mais j'aimerais rattacher Internet au patrimoine. C'est quelque chose à quoi vous tenez beaucoup. Vous avez même imaginé de créer avec les archives de l'INA une chaîne qui s'appellerait Imagina.
Oui, et d'ailleurs, là, j'ai eu Mathieu Gallet récemment, et il l'a annoncé de manière publique, parce que pour les 30 ans de la Société de l'Histoire de la Télévision, on est venu m'accueillir au ministère de la Culture. Ils m'ont donné un prix, d'ailleurs j'étais ravi, ils m'ont offert un iPad avec 100 heures de mes émissions. Et Mathieu Gallet a dit, Jacques... a monté une chaîne consacrée au patrimoine. Cette chaîne avait été longtemps abandonnée parce qu'il y avait trop de batailles autour. On avait peur que cette chaîne enlève des archives aux autres chaînes. Donc elle a été, non pas combattue, mais elle a été comme ça un peu paralysée. Et il disait, nous allons la remonter. Alors, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Et il m'a téléphoné. Il était en Russie il y a 3 jours. Il m'a dit, tu sais ce que j'ai dit sur la chaîne du patrimoine? C'est vrai, nous allons en parler très vite. Voilà. Alors, j'espère que nous irons cette fois-ci jusqu'au bout de nos intentions. Parce qu'elle est nécessaire. Vous me parliez également d'Internet. Je suis très peu au courant de ce qui se passe sur cet outil fabuleux. Que
vous savez qu'il y a des archives sonores sur Internet qui sont les rendent accessibles.
Mais moi, je ne veux pas les fréquenter. Je veux dire que c'est mon problème. Vous savez que je ne sais même pas faire un texto. Je ne sais pas le lire et je ne sais pas l'envoyer. Je me préserve de tout ça. J'écris avec un stylo feutre. Le reste, c'est vraiment extraordinaire. Je regarde ça comme un outil magnifique, Internet. Ah oui, je regarde tant, mais je n'en vis pas. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne vivent que par Internet, d'autre part. Demain, ça sera peut-être effroyable, ce que l'on pourra lire sur Internet. Ça va peut-être être complètement dément. Donc, tout ça, je ne veux pas le connaître.
Alors, Jacques Chancel, on doit terminer malheureusement cet entretien. Malheureusement pour moi, je vous écouterai pendant des heures. Mais j'aimerais vous proposer quelque chose pour terminer cette émission. Un auteur traverse souvent vos livres, c'est Albert Camus, que vous n'avez pas radioscopé, évidemment.
Que je n'ai même pas connu.
Voilà. Est-ce que vous pourriez imaginer que vous êtes en studio pour Radioscopique, Albert Camus, là, quelle serait la première formulation du début de Radioscopie d'Albert Camus que vous feriez?
Je crois que je lui parlerai de sa mère. Parce que sa mère a connu à peu près tout ce que l'on peut connaître d'une certaine désespérance. Et lui, il a aimé sa mère comme ça n'est pas possible. Comme on doit aimer une mère. Et peut-être même avec outrance. Donc je lui parlerai de ça. Et puis, il y a aussi le fait que j'étais très ami avec la fille Gallimard. Et que lorsqu'il y a eu le fameux accident à la Facel Vega... Il y avait donc Albert Camus, il y avait Gallimard et il y avait la fille de Gallimard. Et les deux sont morts et Gallimard est resté à sa place. Donc on parlait souvent de Camus. Donc Camus m'est devenu très proche, mais presque par alliance, parce que j'en parlais à d'autres. Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir connu, parce qu'il y aurait eu aussi, pour moi, une question essentielle. Pourquoi avez-vous une telle différence avec Sartre? Pourquoi vous oppose-t-on à ce point? Pourquoi êtes-vous si différent? Je suis persuadé que si vous vous rencontriez, si vous passiez toute une soirée ensemble, il y aura un accord, peut-être pas sur le plan politique, mais il y aurait un accord entre deux hommes de très grand talent.
Sartre a d'ailleurs écrit une très belle page de nécrologie.
Mais combien de fois on a dit qu'il a été tellement combattu, Albert Camus. C'est honteux la manière qu'on a eu de le combattre. Bon, enfin, aujourd'hui... Il réapparaît. Aujourd'hui, il est véritablement en majesté.
Jacques Chancel, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce magnifique livre « Dictionnaire amoureux de la télévision » dont j'espère quand même qu'il y aura un deuxième volume, « Le dictionnaire amoureux de la radio ».
On verra. Je ne crois pas.
Merci Jacques Chancel.